bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Panorama sur votre radio. L'actualité de cette semaine est restée dominée par la dépréciation du franc congolais. Le franc congolais n'est toujours pas en parfaite santé face au dollar américain. La parité franc congolais dollar est haussière. Elle varie selon qu'on est à la cité ou au centre-ville. À ce jour, un dollar américain équivaut à 1002 francs congolais. Durant cette semaine, nous avons aussi parlé de la hausse des prix de connexion Internet en RDC. Une hausse justifiée selon les télécoms par la multiplicité des taxes auxquelles ils font face. Et enfin, nous reviendrons sur deux grands rendez-vous à noter dans vos agendas pour la semaine prochaine. Le premier, la tenue de la conférence économique organisée par l'entreprise Croissance canadienne en date du 22 au 25 juin. Et aussi la tenue de la 6e édition du forum accès au financement de PME en date du 25 juin. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Jean-Luc Kayembe. Il est directeur général à la Banque centrale du Congo. Bonjour M. Kayembe.
Bonjour madame.
Et bienvenue dans cette émission.
Merci.
Panorama économique, le dossier.
Encore une fois, bonjour. Nous ouvrons ce magazine par le marché des changes. Selon les informations recueillies, le franc congolais n'est toujours pas en parfaite santé face au dollar américain et autres devises qui ont cours en RDC. La parité franc congolais-dollar est haussière. Elle varie selon qu'on est à la cité ou au centre-ville. Et même au centre-ville, le taux n'est pas le même partout. Babène Pongo Massimango nous en dit plus.
À ce jour, le taux du dollar est déjà au-delà de 1000 francs congolais au centre-ville alors qu'à la cité, il varie entre 980 et 990. Deux jours avant, il ne restait que quelques centimes pour qu'on atteigne le seuil de 1000 francs congolais pour un dollar américain. À la cité, le taux de change varie entre 960 et 970, tandis qu'en ville, il était compris entre 980 francs et 997. Il s'agit ici de l'achat auprès des cambistes mis à la vente, c'est-à-dire lorsque les cambistes vous vendent la devise, le taux est déjà au-delà de 1000 francs congolais. Mais officiellement, le taux de la Banque centrale du Congo est à 964,71 francs congolais pour un dollar américain. Il doit encore être supérieur à l'interbancaire. Et sachez que plus le franc se déprécie, plus l'incidence sur le pouvoir d'achat sera grand, estiment certains analystes économiques que nous avons contactés. Une incidence d'abord sur les prix de biens et services qui n'ont que le dollar comme monnaie de référence dans les transactions. Une autre incidence est sur les salaires de fonctionnaires. Au début de l'année, le fonctionnaire qui gagne 70 000 francs congolais taux de 920 avait au moins 76 dollars plus quelques cents. Mais aujourd'hui, 70 000 francs congolais représentent 70,2 au taux de 997. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du syndicat national des écoles catholiques, Jean Bosco Pounin.
Cette fluctuation a véritablement un impact négatif par rapport au pouvoir d'achat des agents et fonctionnaires de l'État et particulièrement les enseignants. Vous savez que le salaire que touchent les enseignants, c'est un salaire déjà dérisoire. C'est ce qui place l'enseignant dans la catégorie des personnes vulnérables. Et si au-delà de ça, on doit avoir cette situation à laquelle on est confronté aujourd'hui, il faut dire que c'est une véritable catastrophe pour l'enseignant. En réalité, l'enseignant qui touche 100 000 francs, hier, il pourra avoir 110 dollars, ce qui peut lui permettre de faire quelques dépenses. Mais aujourd'hui, avec ce dollar qui a pris de l'ascenseur, ça devient encore très compliqué.
Autre sujet de la semaine, samedi 11 juin dernier, des utilisateurs d'Internet ont organisé une manifestation dénommée Nuit debout contre la hausse de prix de connexion Internet en RDC. Les organisateurs de cette manifestation voulaient par cet acte obtenir du gouvernement l'annulation de la nouvelle tarification qu'ils ont qualifiée d'abusive des prix de connexion Internet. Vu le contexte économique global du pays, certains observateurs estiment que si les prix de la téléphonie et ceux de l'Internet demeurent inchangés, les opérateurs télécoms seront en difficulté parce que le coût opérationnel sera insoutenable et certains d'entre eux risquent de fermer et de se retirer. Pour Mme Annie Kitima, experte en télécom, plusieurs facteurs entrent en compte dans le coût d'investissement des entreprises de télécom. Elle était l'invitée des paroles aux auditeurs du mercredi dernier. Suivez.
Le premier facteur est celui de la taxation même du secteur des télécommunications. Comme vous le savez, une entreprise de télécommunications, comme n'importe laquelle autre, comme n'importe quelle société commerciale, elle est assujettie aux dispositions générales, applicables à tous. Mais le secteur de télécommunications a ceci de particulier, c'est qu'il y a une taxation qui est spécifique au secteur des télécommunications. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, sur le service de télécommunications, vous payez des redevances de fréquence. qui sont très élevés, principalement pour les fréquences hertziennes. Et vu l'immensité du territoire, pour le couvrir, ça demande un déploiement d'infrastructures importantes, donc une utilisation importante de fréquences. Vous payez une taxe qu'on appelle la taxe de la numérotation, qui est une taxe qui frappe chaque numéro de téléphone qui a été activé. Parfois, il peut ne pas être utilisé, mais l'opérateur paye cette taxe de numérotation. Et vous avez aussi maintenant une taxe spécifique qui est très lourde, qu'on appelle la redevance annuelle de la licence. Elle correspond à 3% du chiffre d'affaires. On ne parle pas de profit, on parle de chiffre d'affaires de l'opérateur, qui chaque année se chiffre en millions et millions de dollars qui sont versés à l'État au titre de taxation sans considération de la réalisation de profit ou pas dans le chef de l'opérateur. Il y a aussi maintenant les taxes à la consommation qui sont assez élevées. Sur une minute de télécommunication que vous passez, vous devez savoir que vous payez 16% de TVA plus 10% de taxes d'assises et ce coût est vraiment exorbitant. Sans tenir compte aussi que quand vous faites le calcul pour connaître exactement qu'est-ce que on paye sur les importations d'équipements de télécommunications, vous vous rendez compte que c'est 45% de droits de douane et frais connexes. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, il y a un problème de surtaxation du secteur des télécommunications.
Troisième sujet de la semaine, je le disais au sommaire, deux grands rendez-vous sont à noter dans vos agendas pour la semaine prochaine. Le premier, la tenue de la conférence économique organisée par l'entreprise Croissance canadienne en date du 22 au 25 juin. Le thème choisi est « Quelle économie pour le Congo futur ?». Les participants à cette conférence vont se pencher sous le voie du moyen pour aider la RDC à atteindre son émergence. Philippe Walesa, le PDG des Canadiennes Croissance, nous parle de préparer de cette conférence.
Et notre souci est de motiver la classe économique, puisque le gouvernement lui seul ne pourra jamais faire quelque chose, n'a pas cette capacité-là. Ça, c'est tout le gouvernement du monde. Et nous voulons construire une nouvelle ère de prospérité en mettant en phase une certaine interactivité avec les petites et moyennes entreprises, avec les opérateurs économiques, avec les femmes. Et nous voulons que les gens passent du statut d'employé à celui d'employeur. Alors, c'est un forum qui a beaucoup d'avenir, qui va accoucher sur beaucoup de recommandations pour lesquelles nous allons appliquer. Ce n'est pas que nous allons soumettre ce forum, les conclusions de ce forum-là à une autorité, mais c'est nous-mêmes, avec déjà un plan de travail bien fait, et nous allons déjà mettre sur pied des programmes qui vont répondre aux attentes de la population d'une manière générale.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la formation des femmes qui aura lieu à Fatima. Est-ce qu'il y a des conditions pour participer à cette formation?
Oui, nous avons allégé les conditions puisqu'il y a une Britannique, une Congolaise d'origine britannique qui viendra animer cette session-là, une formation qui va se faire sur 2 heures. On doit montrer aux femmes comment récupérer tout ce matériel et puis faire que ça devienne une source de revenus. Condition, c'est tout le monde et chacun peut payer 10 dollars comme participation à ce forum-là.
Autre rendez-vous, c'est la tenue de la 6e édition du forum accès au financement de PME en date du 25 juin à l'Université protestante du Congo. Les FPM, ASBEL, Fonds pour l'inclusion financière en RDC, organisent ce forum pour réunir les entrepreneurs, acteurs du secteur financier, associations et organismes de soutien à l'entrepreneuriat, les bailleurs de fonds et les représentants de pouvoirs publics en République démocratique du Congo, afin de discuter de voies et moyens pour faciliter l'accès aux produits et services financiers au MPME. On écoute Jean-Claude Tetika, directeur général du FPM, qui revient sur cette 6e édition.
L'idée, vous avez très très court et on n'a pas le temps, les clients n'ont pas toujours le temps de pouvoir s'exprimer clairement. Et on nous a dit qu'il était important de pouvoir réunir tous les acteurs qui interviennent au niveau du financement de la PME, en fait d'avoir une journée entière dédiée à la discussion des problématiques liées au financement, mais au-delà même du financement, que vous voyez très bien au niveau des thématiques, qu'il y a aussi des questions qui sont liées à la gestion de la PME, à la prise en charge, Et donc tout cela est pris en compte pour pouvoir parler. Et les 5 dernières émissions nous ont conforté dans l'idée que c'était important de pouvoir reprendre, avoir cette manifestation chaque année. Et nous pensons que c'est extrêmement important, et surtout de nouveau les dialogues, et particulièrement encore cette année, qui est une année assez particulière, de la conviction que soutenir la PME, c'est soutenir exactement les tissus économiques du pays. Le revenu moyen ou le revenu par habitant est beaucoup plus détenu par le pays. C'est vraiment très important pour lequel je pense qu'il faut donner.
Alors, je reviens à vous, monsieur Jean-Luc Kayembe. Vous êtes directeur général à la Banque centrale du Congo. Nous l'avons dit tout à l'heure, le franc congolais n'est toujours pas en parfaite santé face au dollar américain. Comment, monsieur Kayembe, vous expliquez ces phénomènes? Est-ce toujours lié à l'insuffisance de dollars ou bien c'est une prophétie qui est en train de se réaliser parce que la Banque centrale avait prédit que l'année 2016 ne sera pas facile?
Merci, madame, pour votre question. Je confirme en effet que le franc congolais s'est déprécié sur les deux segments de marché. Sur le segment interbancaire, donc le taux indicatif est passé de 927 à fin décembre 2015 et à la date du 16 juin, nous avons, la Banque centrale a clôturé le marché d'échange avec un taux de 964,7, donc soit une dépréciation de 3,8%. Et donc sur le segment parallèle également, à fin décembre 2015, le taux moyen était de 942 et comme vous l'avez dit, nous, à la date d'hier, le 16, le taux fluctue entre 1000 et 1050, donc soit une dépréciation autour de 9%, 10,2% ou 3%. Donc, qu'est-ce qu'il faut d'abord comprendre, madame? C'est que l'élément, tout le monde se pose la question, le franc congolais est resté stable pendant
plusieurs
années, et qu'est-ce qui explique cette surchauffe qu'on observe sur le marché, ou qu'est-ce qui est à la base de ces glissements de taux? Ce qui est à la base, madame, c'est que c'est en fait la mauvaise conjoncture internationale. C'est un facteur qui vient de l'extérieur. On appelle en fait la mauvaise conjoncture internationale ou qu'on peut appeler d'un choc exogène, c'est-à-dire un facteur qui vient de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial? Au niveau mondial, on assiste à un ralentissement de l'activité mondiale. Donc, les taux de croissance mondiale, l'activité mondiale est restée faible.
Avec la chute de...
Bien sûr. Qu'est-ce qui a occasionné cette baisse de l'activité mondiale? C'est la chute des prix des matières premières, des produits de base, et également les ralentissements de la croissance au niveau de l'économie chinoise, ainsi qu'au niveau des économies émergentes. Donc, cette mauvaise conjoncture, notamment la baisse des prix de matières premières, a fait que nous puissions être affectés. Nous avons été affectés donc par les canaux du commerce. Et nous ne sommes pas les seuls, ça je crois qu'il convient de le souligner, nous ne sommes pas les seuls pays à pouvoir passer par cette situation difficile. Beaucoup de pays africains et au niveau mondial sont en train de traverser les mêmes difficultés. Donc les difficultés que nous traversons aujourd'hui au niveau de la monnaie, au niveau de l'inflation, ne sont pas propres à la RDC. C'est une situation pratiquement qui touche beaucoup de pays. Alors, qu'est-ce qui conduit au glissement du taux de change? C'est que, à la suite de la baisse, comme vous savez, nous sommes un pays qui dépend de matières premières, notamment les cuivres. Alors, la baisse du prix de cuivre a fait que, qui est passé bien sûr d'une moyenne autour de 7500 tonnes métriques en 2011-12, maintenant on est le cuivre a chuté pour tomber autour de 4700 actuellement, donc une baisse autour de 30%. La baisse des prix du cuivre a eu comme impact la baisse des exportations. Donc la baisse des exportations qui a pénalisé les secteurs miniers. Comme vous l'avez appris, l'activité au niveau du secteur minier a baissé. Et d'ailleurs, c'est ce qui a affecté même l'activité au niveau de la RDC. La croissance a été revue à la baisse. Nous sommes passés d'un niveau de croissance de 6,9 en 2015 à 5,3 cette année 2016. Donc, La baisse de la croissance est liée à la baisse au niveau du secteur minier. Pourquoi le secteur minier, il y a eu baisse? Tout simplement du fait de la baisse de prix. Et beaucoup d'investisseurs, beaucoup de miniers ont trouvé que ce n'est plus rentable.
Alors, maintenant que le problème est là, ouais. Qu'est-ce que la Banque centrale a mis en place comme mécanisme pour faire face à cette situation?
Parfait. Alors, la baisse des exportations a eu comme conséquence la baisse des rapatriements, c'est-à-dire les devises qui viennent qui reviennent au pays, ces devises ont baissé sensiblement. Ah, donc, sous le marché de change, je vais donner un chiffre, en temps normal, quand on exportait, les miniers exportaient au prix que nous avons connu de 7500 en moyenne, on rapatriait, les entreprises minières rapatriaient en moyenne 900 millions par mois. Et du fait de la baisse, donc de la chute du cours de cuivre, les baisses des exportations, ces répartiments de devises ont baissé et pour se situer à moins de 5 millions par mois. Donc il y a un déficit au niveau de marché d'échange. Les marchés d'échange, donc il y a l'offre et la demande. L'offre de devises sur le marché d'échange a sensiblement baissé. Alors que faire? Que doit faire la Banque centrale pour contrer cette situation? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Le problème, c'est que la question que l'on peut se poser, parce que je disais que cette situation n'est pas à propre à la RDC. Tous les autres pays, toutes les autres banques centrales, qu'est-ce qu'elles font? Le problème, en termes de solution, dépend de la nature du choc et de l'ampleur ou de la durée du choc. Alors, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? D'abord, lorsqu'on fait face à une crise de la balance des paiements, les recettes baissent, il n'y a plus assez de devises, c'est la Banque centrale qui doit intervenir. Et là, nous l'avons fait au niveau de la Banque centrale, vous avez appris que à deux reprises, la Banque centrale est intervenue sur le marché pour vendre des devises.
Mais on n'a pas senti l'impact.
Nous avons senti l'impact. Et parce que, déjà, au niveau de notre pays, je vous apprends que c'est déjà en 2015 que les prix des matières premières ont chuté. Mais en 2015, on n'a pas senti le glissement du taux ici. Pourquoi ça? Parce que il y avait encore des réserves au niveau de l'économie, au niveau de la banque. Et il y avait d'autres interventions indirectes qui étaient effectuées par la Banque centrale. Donc nous étions dans une certaine mesure résilients. Donc l'économie était résiliente. Donc nous sommes intervenus et ces interventions de la Banque centrale n'ont pas comme objectif d'arrêter les glissements. Ça, nous devons être clairs. Les interventions au niveau des autorités budgétaires et monétaires face à ces chocs, la baisse drastique des matières premières, des exportations et des rapatriements, l'action de pouvoir public, des banques centrales, consiste à atténuer l'ampleur de choc. Donc, glissement des taux, il y en a eu dans tous les pays, mais les autorités sont intervenues pour lisser la dépréciation ou le glissement. C'est-à-dire
mais ce n'est toujours pas atténué. Oui. C'est plutôt les contraires qui se fait.
Non, madame, je vais vous donner quelques chiffres. Oui. Parce que, déjà en 2015, notre monnaie est restée pratiquement stable. Nous avons connu une dépréciation au niveau de notre de la RDC de 0,37%. Alors que d'autres pays en 2015 déjà avaient connu de fortes dépréciations. Je vais vous donner quelques chiffres. Au niveau de l'Angola par exemple, en 2015, la monnaie a chuté de 24%. En Zambie, la monnaie a chuté de 25%. Et en Tanzanie, de 18%. Alors qu'ici, en RDC, la monnaie est restée plus ou moins stable. Nous avons connu une légère dépréciation de 0,37%. Donc, nous avons été résilients et les politiques qui ont été mises en place par le gouvernement et la Banque centrale ont permis de contenir le choc dans une certaine mesure ou d'atténuer l'impact de ce choc.
Mais maintenant que la situation s'empire, qu'est-ce que vous comptez faire?
Justement, c'est une bonne question. Nous sommes intervenus par deux fois au niveau de la politique de change, monétaire et d'échange, vous avez appris, et au niveau de la politique budgétaire, il y a d'autres mesures qui ont été prises, notamment la réduction du train de vie du gouvernement. Oui. Ce sont des mesures qui ont consisté à réduire tant soit peu la demande de devises. Alors, maintenant que la situation s'accélère, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à mettre en œuvre des politiques restrictives, c'est-à-dire au niveau de la Banque centrale, voir dans quelle mesure la Banque centrale, les comités de politique de la Banque centrale va se réunir dans les jours qui viennent et pourra décider d'une autre éventuelle intervention sur le marché de change. Et donc, la Banque centrale appréciera la situation et pourra être amenée à encore vendre des devises sur le marché.
Et à ces rythmes, on ne risque pas d'aller au-delà de 1000, de 2000.
Comme je le disais, madame, parce que n'eût été les interventions de la Banque centrale, n'eût été les actions menées par le gouvernement, on serait déjà à un taux au-delà des 1000. Et d'ailleurs, on aurait atteint 1000 déjà en 2015. Et donc, l'action du gouvernement et de la Banque centrale, les actions qui ont été menées, ont permis d'atténuer ou de faire glisser les chocs ou la dépréciation. Donc, je vous donne le cas d'un pays qui également fait face à un grand pays qui fait face à cette situation, notamment le Nigeria. Parce que je vous ai dit, nous ne sommes pas les seuls. Au Nigeria, la Banque centrale est intervenue. Le Nigeria a, avait un niveau de réserve de 47 milliards de dollars. Alors, face à la situation, parce que vous avez appris également que, comme je le disais tout à l'heure, le baril a baissé, il est passé de 110 à 47, et moi-même de 40 fois dollars les barils. L'économie du Nigeria a été affectée et la monnaie devait connaître un glissement. La Banque centrale est intervenue et elle a perdu plus de 10 milliards. Alors, le problème, c'est qu'on a arrêté l'intervention, de la Banque centrale et elle a accepté de faire glisser la monnaie. Donc, en ce qui nous concerne, la Banque centrale va intervenir et justement pour arrêter, pour atténuer cette dépréciation. Mais on ne peut pas l'arrêter, nous ne sommes pas les seuls. C'est une crise qui touche beaucoup de pays, tous les pays qui sont exportateurs de matières premières.
Pour nous résumer, qu'est-ce que la banque va faire?
La banque va intervenir, va utiliser ses instruments.
En quoi consiste son intervention?
L'intervention va consister, dans la mesure du possible, à augmenter l'offre de devises sur le marché. Les ventes de devises. On a vendu aux banques parce que, madame, les besoins des banques actuellement sont autour de 80-90 millions de dollars. Je vous ai dit qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande des devises. Il n'y a pas suffisamment de devises qui entrent au sein de l'économie. Alors, au même moment, les besoins d'importation des entreprises sont très élevés. Les demandes des entreprises pour les besoins d'importation sont très élevées. Et ainsi, donc, il y a un gap, il y a un besoin. La demande de devises est très importante par rapport à l'offre. La Banque centrale va voir dans les jours qui viennent, on attendra la décision du comité pour voir si elle peut intervenir sur le marché. Il y a d'autres instruments, notamment la Banque centrale peut relever les niveaux de coefficient de la réserve obligatoire.
C'est-à-dire,
elle peut stériliser encore une grande partie de la liquidité des banques,
cette partie
pour les communs des mortels, c'est-à-dire les francs congolais qui sont à la recherche des devises, les banques centrales peuvent stériliser ces francs congolais en augmentant les coefficients de réserve obligatoire. La Banque centrale peut également, parce que vous savez, qu'est-ce qu'il y a à la recherche de dollars? C'est les francs congolais. Oui. Les banques centrales peuvent attirer ces francs qui sont à la recherche des devises autrement, en vendant sous le marché des bons PCC. Les bons PCC, en mettant en vente les bons BCC, une partie de cette liquidité qui est à la recherche de devises peut être captée par les bons BCC et réduire la pression.
Et c'est quoi un bon BCC pour
la
maman?
C'est les titres. Oui, justement. C'est les titres. Merci, madame. C'est les titres, des titres que la Banque centrale est en train de vendre sur le marché. Et donc, ces titres-là, et qu'on appelle les bons de la Banque centrale, ces titres-là sont achetés par les banques, même par les privés, via leurs banquiers. Donc, vendant les bons BCC, les banques qui ont des francs vont amener ces francs à la Banque centrale et la Banque centrale va stériliser. La vente des bons et l'augmentation du coefficient de la réserve, ces deux instruments ou ces deux opérations ont comme impact d'absorber un excédent de liquidité en francs et de les stériliser, à la Banque centrale et de réduire la pression sur les devises. Et
donc la BCC n'a pas croisé les bras, elle est en train de fournir des efforts.
Et parce que les efforts doivent continuer à être menés au niveau des politiques macroéconomiques, politique monétaire, la politique budgétaire, la politique d'échange, mais aussi au niveau de réformes structurelles.
Et donc, que répondriez-vous à certains observateurs qui estiment que cette situation est plutôt due à la baisse des recettes au niveau du marché de l'UFO?
Non, la baisse des recettes au niveau du marché de Loufou. Il n'y a pas que la baisse des recettes au niveau du marché de Loufou. Parce que, comme vous le savez, la situation, les chocs que connaît notre pays a des impacts au niveau de tous les secteurs. Je veux dire, l'impact sur l'activité. Parce que le minier, lorsque le prix ne couvre plus, ne leur permet pas d'atteindre les seuils de rentabilité, les miniers sont donc découragés de produire un peu plus, il y a baisse d'activité. Mmh. Et comme vous le savez, les miniers, ce sont les plus grands contributeurs au niveau du budget de l'État.
Ouais.
Ainsi donc, globalement, le fait de la baisse d'activité au niveau du secteur des mines a entraîné une baisse au niveau des recettes de l'État. Et en termes de chiffres, les trésors qui avaient en moyenne un niveau de recette de 350 milliards, actuellement c'est moins de autour de 250 milliards du fait que les miniers qui contribuaient de manière significative au budget de l'État qui sont en difficulté n'arrivent plus à contribuer comme par le passé. Donc ce n'est pas seulement la baisse des recettes au niveau de l'OFU, bien sûr ça peut être également ça peut être le cas, mais c'est d'une manière générale le fait que certaines activités sont en baisse, l'activité globalement est en baisse, notamment au niveau du secteur des mines, ça a affecté également les recettes publiques en général.
On l'a suivi tout à l'heure, il y a le secrétaire général de Sinecat qui se plaignait que ces phénomènes puissent avoir un impact sur le prix de produits des premières nécessités.
Tout à fait, madame. Comme vous le savez, nous sommes dans une économie dollarisée, ce qui fait que tout ce qui se passe sur... Il y a une forte corrélation entre les deux marchés. Les prix sont fixés en dollars, pratiquement, même si les étiquettes sont en francs congolais, mais la référence est le dollar. Alors, toute dépréciation de la monnaie entraîne automatiquement une résurgence, une hausse des prix sur le marché des biens et services. Donc tout ce qui se passe sur le marché de change se répercute sur le marché des biens et services, se répercute sur les prix. Ainsi donc, la hausse des prix a comme inconvénient, c'est la baisse de pouvoir d'achat. Donc, c'est tout à fait normal, chaque fois qu'il y a dépréciation du taux de change, cela impacte les prix des biens et services, et les prix des biens et services qui augmentent affectent le pouvoir d'achat de tout le monde. Ce n'est pas qu'il n'y a que les enseignants qui sont touchés, tout le monde, parce que tout celui qui a un revenu à monnaie nationale, du fait de la hausse des prix, en fait, en termes réels, il y a une perte. Maintenant, le problème, c'est de savoir, il a également dit qu'il faudrait que l'on commence à revoir les rémunérations, et cela doit bien se négocier. Parce que vous vous rappelez, par le passé, ce qui nous a amené à l'hyperinflation, c'était quoi? Face à la dépréciation, les gens, il y a perte de pouvoir d'achat, les gens se mettent à réclamer un peu plus des revenus, des augmentations des salaires. Si les recettes de l'État ne permettent pas de couvrir ces augmentations des salaires, l'État sera en déficit, et si ce déficit est financé par la planche à billets, donc recours aux avances de la Banque centrale. Ces avances à la Banque centrale vont faire croître la liquidité, la masse monétaire. La masse monétaire va faire croître l'inflation. Donc ça sera une spirale d'inflation, ça sera un cercle vicieux.
Un mot pour rassurer la population. Nous sommes
pour rassurer la population, ça veut dire que la situation que nous traversons maintenant, c'est une situation que le monde entier traverse. Nous ne sommes pas les seuls. Les autorités, et cette situation devait pousser les autorités, les pouvoirs publics, à mettre en place beaucoup plus de réformes et des politiques macroéconomiques prudentes, politiques restrictives, des politiques qui peuvent permettre d'atténuer ou de lisser les glissements du taux de change et de maintenir les cadres macroéconomiques stables, parce que le cadre macroéconomique stable permet donc de préserver le pouvoir d'achat de tout le monde, la population, surtout la population la plus vulnérable.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Kayembe, d'avoir accepté notre invitation. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine. Merci à André Mongou. Merci à André Mongou qui a assuré la mise en onde. Et merci à vous qui l'avez suivi. À bientôt pour un autre numéro de Panorama économique.